Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. 2015 se termine. Regard sur l'année écoulée avec deux spécialistes des relations internationales et co-directeurs de l'édition 2016 de l'État du Monde paru aux éditions La Découverte. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages phares sur les relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur également de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Bertrand Badi, Dominique Vidal, avant de lancer quelques-uns des sujets qui ont dominé l'année, j'ai envie de commencer par ceci. Quel goût vous laisse 2015 et quel est votre sentiment dominant et vos sous-sentiments, Bertrand Badi?
Un goût évidemment très amer parce que nous avons vécu en 2015 deux tragédies en France. Mais il ne faut pas oublier que ces tragédies que nous avons vécues en France, d'autres l'ont vécu à Beyrouth, à Ankara, dans le Sinaï, et hélas dans de très nombreux endroits. La Syrie, dont le terrible décompte des morts continue à s'aggraver. Mais je voudrais, en cette fin d'année, retenir une lueur. Et une lueur quand même qui compte. 2015, pour les historiens, sera peut-être l'année du redémarrage de la diplomatie. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Pourquoi ? Parce que la diplomatie avait comme cessé d'exister depuis 1989. On ne négociait plus, on était dans un système de gouvernance du monde réalisé par un petit nombre d'États avec beaucoup d'exclus, des grands, comme la Russie, d'un certain point de vue, la Chine, exclus de la gouvernance du monde, et des petits, mais des petits qui ne sont pas n'importe lesquels, ceux chez qui se passaient des événements dramatiques qui ne pouvaient que se tenir un rôle passif. 2015, c'est un tournant à cause de la réussite de la première négociation politique post-bipolaire, la négociation sur le nucléaire iranien, qui est quand même un tournant majeur et surtout prometteur. Et en cette fin d'année, dans ces tout derniers jours, un regard nouveau qui peut être porté sur la crise syrienne. Pour la première fois, le regard n'est pas militaire, le regard est diplomatique. C'est-à-dire que les cinq grands du Conseil de sécurité, mais attention, surtout les anciens deux grands, la Russie et les États-Unis, avancent dans la définition d'un terrain commun de rencontre politique pour une solution de la crise syrienne. Alors ce sera long, ce sera difficile, mais c'est un démenti apporté aux Cassandres, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de négociation entre Moscou et Washington. Il y a quelques mois, on n'en donnait pas cher. Et surtout, cela démontre que le multilatéralisme peut encore agir. Et au-delà de ce qui, de toute manière, n'avait aucune chance de conduire à une solution, c'est-à-dire la guerre. Tout ça, c'est quand même un signe très important. Je crois qu'on peut se féliciter que le président des États-Unis soit Barack Obama et espérer que le futur ne sera pas M. Trump. Mais parmi les autres, est-ce qu'il y a franchement mieux ? Je me pose la question. Mais en tous les cas, Obama a engagé quelque chose. Peut-être la troisième étape de l'insertion des États-Unis dans la vie internationale, après l'étape isolationniste du 19e siècle, l'étape messianique, interventionniste, universaliste du XXe siècle, peut-être sommes-nous à l'amorce de quelque chose de nouveau, que je dirais une certaine découverte par les États-Unis de l'altérité. C'est doublement possible, d'abord parce que la philosophie politique américaine repose quand même sur l'idée de pluralité, autant que sur l'idée de messianisme, donc il y a un balancement possible, et puis aussi parce que l'actuel président est issu de la diversité, et c'est pas étonnant que de ce point de vue-là, il y ait un sens de l'altérité dans les relations internationales.
Donc Dominique Vidal, je me tourne vers vous avec la même question posée à Bertrand Badi, le goût que vous laisse 2015.
Écoutez, je partage ce qu'a dit Bertrand, des aspects positifs, plus que positif même, que représente l'accord sur le nucléaire iranien avec ses conséquences qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre dans le processus en cours sur la Syrie. Personnellement, quand même, je trouve que ce qui s'est passé chez nous obscurcit sacrément tout ça. Je ne veux pas dire seulement l'horreur des attentats, ceux de janvier ou ceux de novembre, mais aussi la réaction à ces attentats. Je suis étonné toujours par la manière dont beaucoup de nos confrères et consoeurs se mettent au garde à vous devant l'exécutif pour relayer un discours qui est un discours à la fois guerrier et sécuritaire. Guerrier, on est dans la guerre à Daesh, on y était avant d'ailleurs, peut-être il y a un lien entre notre intervention sur le terrain et les attentats dont nous avons été victimes, mais on y est à plein aujourd'hui dans le discours tenu, étonnamment d'ailleurs, parce que moi je n'ai toujours pas vu un seul expert militaire venir dans une émission de radio ou de télévision ou écrire dans un journal pour dire qu'il pense qu'une guerre de bombardement permettra de venir à bout de Daesh. Quant à ceux qui disent « oui, mais on enverra des troupes sur le terrain », ils sont bien rares, parce que j'entends surtout des militaires, là encore, des spécialistes, nous dire « mais non, les grandes puissances n'enverront pas de troupes sur le terrain, il faut que ce soit les autochtones qui se chargent du sale boulot, et donc, une fois de plus, on sacrifie les gens du lieu ». Ça, c'est quand même quelque chose de très inquiétant, d'autant que ça se double, pour ce qui est strictement de la France, d'un discours sécuritaire. Je suis évidemment favorable à ce que nous menions une mobilisation très forte contre le djihadisme, mais comment ? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un état d'urgence dont on sait aujourd'hui que ses principales victimes ou ses principaux objets ne sont pas les djihadistes en question, mais d'autres militants, y compris des militants écologistes. On se demande ce qu'ils font dans cette galère. On a cette espèce de tension islamophobe qui ajoute à la difficulté qui est la nôtre. Et on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt. Nous avons en France des jeunes, pour une part issus de l'immigration, pour une part non d'ailleurs, même un grand nombre qui ne sont pas issus de l'immigration et qui versent dans le djihadisme. Donc c'est bien cette question-là qu'il faut poser, et c'est certainement pas à coup d'état d'urgence et de nouvelles constitutions, d'amendements de la Constitution, qu'on va résoudre ce problème, qui est un problème dont tout le monde sait que la dimension religieuse est mineure. Ce qui est majeur, c'est autre chose qu'il s'agit de débusquer, qu'il s'agit de modifier sur le fond. Et le fond, c'est cette espèce de réservoir, de terreau qui s'est créé petit à petit par la discrimination, la ghettoisation, l'ensemble des humiliations que vivent un certain nombre de jeunes, qu'ils soient, je le répète, issus ou non de l'immigration. La misère sociale reste, quoi qu'en disent tous ceux qui veulent jeter l'eau du bain et le bébé d'un même mouvement, non, non, la misère sociale reste un terreau profond pour ce type de dérive.
On aura l'occasion de développer dans la deuxième partie de l'émission avec justement donc l'état du monde qui a pour titre cette année, enfin l'édition 2016, Un monde d'inégalités. Bertrand Badi, je reviens à ce que vous disiez quant à 2015, année du redémarrage de la diplomatie. Il est vrai qu'on a vu donc la Russie et l'Iran revenir sur la scène internationale. Qu'est-ce que nous avons compris que nous n'avions pas compris précédemment ?
D'abord, c'est une version optimiste de penser que tout le monde a tout compris. Ce qui m'intéresse, c'est le volontarisme de Barack Obama, qui généralement n'a pas été compris, et en particulier dans les chancelleries européennes, je ne dirais pas particulièrement françaises, mais on peut aussi le penser. C'est-à-dire qu'il y avait trois énigmes que, d'une certaine manière, Obama nous a aidés, non pas à lever, ce serait trop facile, mais en tous les cas, à mieux saisir. Première énigme, quelle est la nature de ces formes nouvelles de conflictualité auxquelles nous nous trouvons confrontés ? Autrefois, et pendant très longtemps, la guerre était une compétition de puissance. C'est encore comme ça que ici nous la pensons, c'est-à-dire qu'il va se produire quelque part au nord de la Mésopotamie une nouvelle bataille de la Marne. Mais la conflictualité a complètement changé, ce n'est plus une compétition de puissance que nous offrent ces formes nouvelles de guerre, c'est une compétition de faiblesse. C'est-à-dire, c'est un effet de décomposition politique, institutionnelle et sociale. Et c'est particulièrement clair dans le cas irakien et syrien, où on voit deux États s'effondrer, pour des raisons d'ailleurs tout à fait différentes, deux contrats sociaux se défaire totalement, deux constructions nationales se détruire. Croire que l'on résout ce genre de problème en s'appropriant la guerre et en allant bombarder est absurde. La retenue dont a fait preuve Barack Obama dès août 2013 est là pour montrer que certains à la Maison-Blanche ont saisi cette transformation. Le deuxième élément, c'est de comprendre, ce qui est déjà plus difficile, que les guerres ne sont plus comme autrefois enracinées dans des champs de bataille territorialisés. C'est-à-dire que ce conflit en Nord-Mésopotamie est un conflit qui se prolonge sous nos pieds. C'est-à-dire ne pas oublier que les acteurs du 13 novembre ne sont pas des missi-dominici envoyés de Mésopotamie par Daesh, mais sont des citoyens français qui vivent dans la société française et qui, en s'identifiant à ce conflit, viennent en quelque sorte faire des ratages, des échecs de l'intégration sociale en France une cause de conflictualité. Ceci implique effectivement non pas de bomber le torse et de jouer des muscles, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe mal dans nos sociétés. Et d'essayer de comprendre, c'est mon troisième élément, c'est toujours ce qu'il faut faire en matière stratégique, quelles sont les finalités de l'adversaire. Les finalités de Daesh, c'est deux choses. C'est qu'on aille le frapper sur son territoire, et il a tout fait pour ça, lorsqu'il a procédé à cette odieuse exécution de James Foley pour obliger Barack Obama à réagir. Et son deuxième objectif, c'est de créer des tensions intercommunautaires chez nous. Je crains que nous aidons Daesh dans la réalisation de ces deux finalités. Et donc, il ne faut surtout pas aller faire une je ne sais quelle bataille de la Marne au nord de la Mésopotamie, c'est-à-dire nous approprier un conflit qui ne nous appartient pas, car lié à la décomposition des États irakiens et syriens, et il ne faut surtout pas jouer de la stigmatisation des communautés musulmanes ici en France, parce que alors là, ce jour-là, vraiment, Daesh aura triomphé, et c'est là qu'on entendra Daesh prononcer les quatre fameuses lettres CQFD.
Dominique Vidal.
Oui, là aussi, je partage entièrement ce que dit Bertrand sur le rôle de Barack Obama. Il aura fallu du temps pour qu'on comprenne ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Et de ce point de vue, c'est évident qu'il avait décidé de se concentrer sur la question de l'accord avec l'Iran. C'était de toute évidence ça qui était pour lui l'objectif numéro un. Ce faisant, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il a levé le pied, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la question israélo-palestinienne.
Absolument.
Et que sans doute restera, à côté du succès iranien, si je puis dire, ça restera sa défaite. Face à un Benjamin Netanyahou qui est dans la posture de celui qui veut tout faire sauter. Et je crois qu'il faut bien mesurer les conséquences, on les mesure déjà sur le terrain, de la décision de Netanyahou, d'abord de saboter les négociations impulsées par John Kerry pendant 9 mois l'année dernière, 2014, mais aussi d'enterrer tout processus de paix avec la troisième attaque contre la bande de Gaza. Et je crois que ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain avec cette escalade, on n'en parle pas du tout d'ailleurs, c'est très curieux dans les médias français, mais tous les jours, il y a des attaques au couteau, tous les jours, il y a des formes de répression parfois extrêmement brutales, il suffit de citer les chiffres, 120 morts palestiniens, 17 morts israéliens. On est une fois encore devant cette disproportion extrêmement émouvante quand on voit les choses se produire. Émouvante des deux côtés, parce que on ne peut pas évidemment participer de cette mystique du couteau qui fait que des gens parfaitement innocents tombent sous des coups de couteau, mais on ne peut pas non plus tolérer la disproportion extraordinaire dont use l'armée israélienne. Or, c'est clair, ce qui produit cette violence, c'est évidemment la fin de toute négociation, donc la fin de toute perspective de négociation et de paix, mais c'est aussi les provocations répétées de Benjamin Netanyahou. C'est quand même extraordinaire que la seule idée géniale qu'il ait eue après le massacre de Gaza, c'ait été de remettre en cause le statu quo sur l'esplanade des mosquées, dont chacun sait qu'il est le baril de poudre qui explose dès qu'on y touche. Et en l'occurrence, on y a plus que touché, puisque Benjamin Netanyahou a laissé, voire incité des groupes de colons à monter sur l'esplanade, contrairement à tous les accords passés autrefois, depuis 1967. Et ces groupes de colons ne sont pas de gentils visiteurs, ce sont des gens qui proclament leur volonté de détruire la mosquée Al-Aqsa, de détruire le dôme du Rocher, l'autre mosquée, celle dont Mahomet se serait monté depuis là vers le ciel, son ânesse. Donc on est devant une volonté d'entretenir une tension. Et je crois que Benjamin Netanyahou, ayant parfaitement compris les objectifs prioritaires d'Obama, a fait en sorte de négocier une espèce d'exception israélienne qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde aux États-Unis pour s'en prendre à la direction israélienne.
Surtout que les États-Unis entrent donc en campagne électorale avec l'élection présidentielle de novembre 2016. Alors, je vous reprends juste, Dominique Vidal, si vous me permettez. Géopolitique, on parle de ces
bien
éléments
sûr,
de tension en Israël et nous avons eu plusieurs fois l'occasion, ce dernier trimestre, d'évoquer la question. Bertrand Badi.
Oui, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me sens un peu plus optimiste que Dominique. C'est vrai, je partage tout à fait son analyse, et notamment cette analyse de la fuite en avant incroyable et dangereuse de Netanyahou. Mais 2015 a été une très mauvaise année pour Netanyahou. Ça a été une défaite patentée. Il a tout fait, même des choses limites, pour empêcher l'accord sur le nucléaire iranien. Au-delà de la limite, absolument. Il n'y est pas parvenu. Première défaite. Deuxième défaite, derrière l'accord sur le nucléaire iranien, il y a comme une double reconnaissance, d'abord de l'Iran comme puissance régionale et de l'Iran comme puissance nucléaire civile, ce qui vient entailler gravement le monopole que s'était empiriquement construit Israël dans l'espace moyen-oriental, où il apparaissait comme la seule puissance régionale capable donc d'imposer sa volonté, son statu quo. Ça, maintenant, c'est du passé. Troisièmement, c'est quand même la première fois, un tout petit peu avec Bush père, mais là, bien pire, qu'un président des États-Unis affiche dans l'espace mondial public son désaccord avec un premier ministre israélien, et souvent en des termes et avec une gestuelle particulièrement vif. Donc là, 2015, c'est quand même l'anus terribilis de ce monsieur Netanyahou. Évidemment, je pense que c'est une source d'optimisme parce que c'est une source de rééquilibrage au Moyen-Orient.
Il faut dire aussi que la relation entre Obama et Netanyahou est une relation particulièrement mauvaise, comme peu de fois on a trouvé.
Un petit peu le père Bush et Isaac Shamir au moment de la conférence de Madrid, mais au centuple.
Dominique Vidal.
Oui, moi, on débat à front renversé parce que d'habitude, c'est Bertrand qui calme mon optimisme. Je trouve quand même que, bien sûr, Netanyahou a été défait sur la question iranienne et c'est très important. Bien sûr, Israël est très isolé au sein de la communauté internationale, en tout cas dans les discours. Il l'est aux Nations Unies, on sait très bien. Mais en même temps, c'est frappant que cet isolement indiscutable, ne trouve pas à s'exprimer d'une manière qui vraiment freine, voire arrête Netanyahou. Il y a une espèce d'autorisation, de feu vert, de fait, qui permet à Netanyahou de continuer et d'aggraver sa politique sans que la communauté internationale n'aille au-delà de discours. Avec un petit bémol positif, effectivement, qui est la manière dont l'Union européenne, pour une fois, s'accroche, sans céder, sans reculer, à la question de l'identification des produits des colonies, qu'elle ne veut pas voir bénéficier des avantages de l'accord d'association.
Mesure toute récente de cet automne.
Voilà, et qui, il y a quelques jours, a été réaffirmée par Bruxelles au grand dam de Netanyahou. Cela étant dit, encore une fois, on a un feu vert qui fonctionne toujours. Et les décisions prises ou annoncées par le gouvernement israélien vers la mi-décembre, qui étaient de mettre en cause l'existence même d'associations pacifistes, je pense en particulier à Breaking the Silence, briser le silence, qui est menacé dans sa réalité d'associations indépendantes. Il y a d'autres mesures préparées, c'est-à-dire on sent une espèce de violence contre la démocratie israélienne elle-même.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Bertrand Badi et Dominique Vidal dans quelques instants. À tout de suite.
Hicham était toujours en retard à l'aéroport. Alors on a créé l'enregistrement en ligne.
Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur 2015 avec deux spécialistes des relations internationales et co-directeurs de l'édition 2016 de l'État du Monde paru aux éditions La Découverte. Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages phares sur les relations internationales, et Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur également de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient. Bertrand Badi, dans la première partie de l'émission, vous évoquiez l'idée que 2015 avait été marqué par le redémarrage de la diplomatie, avec ce constat qui est que la Russie et les États-Unis, somme toute, avancent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les nouveaux puissants du monde sont Moscou et Washington ?
Oui et non. Oui, parce qu'il y a un retour de la Russie sur la scène internationale, et je dirais même sur la scène de la gouvernance. Mais ce retour, je pense qu'on peut l'interpréter à travers la crise ukrainienne, à travers la crise mésopotamienne, comme étant davantage un effort de restauration d'un statut perdu qu'une possibilité réelle de recommencer l'histoire là où elle a été interrompue en 1989. C'est-à-dire la bipolarité, elle est bel et bien finie. Parce que le système international aujourd'hui, de toute façon, ne fonctionne pas comme du temps de la guerre froide. Il n'y a plus deux idéologies qui se font face. Il n'y a plus deux camps qui se font face. Il n'y a plus deux structures sociales et politiques qui se font face. Et du coup, nous avons affaire à un jeu international beaucoup plus fluide, qui ne peut en aucun cas déboucher sur ce modèle du duopole et de la diarchie que nous avons bien connu. D'autant que, depuis le temps de la guerre froide, il y a quelque chose qui a changé, c'est que les champs de bataille, on en a un peu parlé tout à l'heure, se déplacent du nord vers le sud, et que la puissance n'a plus le même rôle face à la conflictualité nouvelle. Autrefois, la puissance éteignait tout. Autrefois, c'est-à-dire du temps de la bipolarité, elle éteignait tout. Aujourd'hui, la puissance n'éteint rien. Et d'un certain point de vue, M. Poutine a mangé son pain blanc. C'est-à-dire, restaurer une puissance déchue, c'est possible en jouant du muscle et en s'affichant surtout sur deux terrains où les cartes occidentales n'étaient pas bonnes. Pas bonnes. En Ukraine, parce que l'irrédentisme criméen reposait quand même sur une réalité sociologique très mauvaise au Moyen-Orient, parce que l'Occident n'a pas d'alliés, alors qu'au contraire, M. Poutine en a, et de configuration très différente. Si maintenant M. Poutine croit pouvoir transformer cette restauration en rétablissement d'une co-gouvernance du monde, alors là, c'est beaucoup moins certain, et je pense qu'il le sait. Et c'est la raison pour laquelle, une fois la puissance restaurée, il se dirige davantage vers une négociation politique où on constate qu'il est infiniment plus souple qu'il ne l'était l'an dernier, alors que sa puissance n'était pas restaurée ni affichée comme telle. Donc, ne vous attendez pas à retrouver dans les années qui viennent l'équivalent des bisous qu'échangeaient Nixon et Brejnev sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ne vous attendez pas à retrouver un Yalta. Nous avons vraiment changé de monde. Et ça va être très difficile pour ces deux champions, et en particulier pour celui qui remplacera Obama à la Maison-Blanche, de pouvoir tenir ce rôle de coprince du monde. Parce que à qui M. al-Baghdadi va-t-il obéir ? Et je dirais même plus, à qui l'ayatollah Khamenei va obéir ? À qui même M. Bachar el-Assad va obéir ? Ce sont de nouveaux acteurs. Et ni M. Baghdadi, ni M. Assad, ni M. Khamenei sont les équivalents de M. Kadhar ou de M. Ludwig Erhard, n'est-ce pas ? Ce n'est plus la même chose. On n'est plus dans une logique campiste.
Alors, on a presque envie, Bertrand Badi, de vous relancer sur la Chine, après ce que vous venez de dire, les aspirations donc de Poutine d'une possible co-gouvernance du monde, c'est évidemment sans compter sur Pékin.
Oui, Mais la Chine, elle se sent bien dans ses baskets. Enfin, je ne sais pas si on emploie ce terme en Chine.
Ils en produisent beaucoup. Hein.
Voilà, exactement. Parce que le cauchemar de la Chine pendant la bipolarité, c'est d'être derrière Moscou. Maintenant, le problème est réglé. Ils ne seront plus jamais derrière Moscou. Ils seront peut-être devant. Donc, c'est une alliance décomplexée qui n'est pas vraiment une alliance au sens classique du terme. C'est-à-dire l'organisation de coopération de Shanghai qui, comme vous le savez, va de Moscou à Pékin en passant par la République d'Asie centrale et de façon imminente de l'Inde qui est en train d'y faire son entrée. C'est une organisation beaucoup plus détendue que ne l'est l'OTAN et les alliances militaires classiques. Donc la Chine en même temps est sortie de son isolement, la Chine ne craint plus la tutelle du grand frère et surtout la Chine est quand même le meilleur élève de la mondialisation. C'est-à-dire, de tous les grands États du monde, celui qui a mieux compris le parti que l'on pouvait tirer de l'entrée dans la mondialisation. Et à partir de ce moment-là, c'est business as usual. Et la grande sagesse de la Chine, c'est l'inverse du messianisme occidental, ou d'ailleurs du messianisme islamiste, qui consiste à dire la meilleure façon d'agir dans le monde, c'est de ne pas agir. C'est un principe taoïste qui conduit la diplomatie chinoise, qui ne s'embarrasse ni des conflits du Moyen-Orient, ni des conflits du Sahel, ni même des conflits d'Asie centrale qui sont pourtant à ses frontières.
Et on la voit quand même, la Chine, défendre sa politique en mer de Chine, Dominique Vidal.
Oui, moi je crois que tout ce qu'a dit Bertrand, que je partage une fois encore, montre que le grand phénomène, c'est la montée des pays émergents. Je veux dire. Mmh. C'est ça le phénomène. C'est pas la Russie ou la Chine. Mmh. C'est un mouvement d'ensemble qui est en train de remettre en cause la domination, je dirais, sans partage des États-Unis et plus généralement de l'Occident. Mais c'est une transition extrêmement lente qui ne peut pas encore s'affirmer pleinement parce qu'elle n'a pas les outils institutionnels internationaux, je veux dire, qui lui permettent d'exister et de trouver des modes de gouvernance, comme on dit. On est encore dans une espèce de recherche à tâtons, et on le voit bien sur les crises irakiennes, syriennes, etc. Deuxième remarque, dans cette configuration nouvelle, il est clair qu'on ne peut pas porter un regard du passé. Ça ne veut pas dire, quand on parle de pousser des émergents, qu'ils vont avoir une vision comme pouvait être la vision du monde anti-impérialiste telle que on a pu la connaître autrefois.
Vous voulez dire que les repères du passé ne valent plus pour aujourd'hui?
On ne peut pas penser que la Russie, comme le pensaient les communistes dans les années 60 ou 70, est par nature une puissance qui fait avancer les intérêts. Non, elle fait avancer ses propres intérêts. La manière dont Poutine se comporte dans les affaires dont nous avons parlé, elle vise de toute évidence à protéger les intérêts russes. Par exemple, dans le Caucase, pour éviter une sorte de contagion du djihadisme dans le Caucase, qui serait, après l'affaire Tchétchène, une nouvelle catastrophe. Elle vise aussi à préserver le peu de bases extérieures à l'ex-URSS que possède la Russie, et en particulier en Syrie. Elle joue aussi sur la préservation des alliances avec l'Iran et avec Assad. L'intervention, de toute évidence, en Syrie de la part des Russes, c'était une intervention pour sauver Assad, qui lui-même avait dit qu'il était au bout du rouleau. Il avait expliqué qu'il ne trouvait plus de soldats à recruter. Et pour cause, dans les 300 000 morts, il y a aussi quelques dizaines de milliers de soldats. Donc on est devant des grandes puissances, que ce soit la Chine ou la Russie, qui défendent leurs propres intérêts, dans un contexte de mondialisation qui, évidemment, est contraignant. Par exemple, ce qui se passe en Chine au niveau de la croissance ou au niveau de la monnaie, a une influence directe sur la situation de la croissance mondiale. Donc, on est dans un autre monde. On est dans un monde où on ne peut pas se mettre derrière un mur dressé par les uns ou dressé par les autres. On est dans un monde unique avec toutes les contraintes que cela représente.
Alors, sauver Assad en Syrie de la part de Poutine et venger aussi, on le dit, la défaite soviétique en Afghanistan, mais on va peut-être pas développer sur cet aspect des choses. Je voudrais revenir à la notion d'émergent. Bertrand Badi, pour parler du Brésil, et de l'Amérique latine, et ensuite évoquer la question des inégalités, les réfugiés en Europe. Bertrand Badi.
Vous savez, les émergents peuvent être regardés de deux côtés. D'un côté économique, la notion devient de plus en plus floue et difficile. Le Brésil est engagé depuis maintenant 2 ans dans une décroissance. On ne sait pas du tout ce qui va lui arriver dans les mois et dans les années qui viennent. Vous nous demandiez un bilan du monde. L'un des éléments du bilan du monde, c'est cette lampe rouge qui s'allume en face du Brésil, qui est un sujet d'inquiétude, parce que de cette crise économique dérive une série de bouleversements et de déstabilisations sur le plan politique intérieur. Et puis il y a l'autre phase de l'émergence, qui est, un peu comme au football, ces fortes équipes de deuxième division qui aspirent à monter en première division. C'est un phénomène plus politique qu'économique, et c'est un phénomène qu'il faut suivre de manière très attentive. C'est la marque de notre monde d'aujourd'hui, où le statut est plus important que la puissance. Moi, je crois par exemple que ce que la Russie recherche au Moyen-Orient, avant de sauver Assad, avant de sauver la base de Tartous, c'est être restauré dans son statut. Le statut est devenu une obsession. La France est obsédée par son statut et la peur de perdre son siège de membre permanent du Conseil de sécurité, ou en tout cas sa crédibilité comme membre permanent du Conseil de sécurité. Du coup, elle s'agite beaucoup sur le plan diplomatique et militaire. Donc tout tourne autour du statut, et là, il y a une formidable poussée en termes de demande de statut qui vient des émergents. Et de ce point de vue, le Brésil, quelles que soient ses difficultés économiques, reste leader sur le plan diplomatique pour exiger une redéfinition des conditions de gouvernance du monde et pour casser le P5, cette espèce de club qui s'est constitué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il est totalement suivi par des pays comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, relayé par les BRICS, où on retrouve en plus la Chine et la Russie. Ça, c'est quelque chose que l'Occident a du mal à regarder, parce que la marque originelle, l'ADN des puissances occidentales, c'est de se croire seul au monde. Et donc, comprendre l'émergence, ça, c'est trop demander aux puissances occidentales. S'habituer à associer à la gouvernance du monde des gens qui n'étaient pas du club, ça, c'est un exercice qui s'est révélé catastrophique. On a essayé de le faire en créant le G20, puis le G20, maintenant, plus personne ne sait très bien ce que c'est, et quand il se réunit, on le sait même pas. On a tenté d'envisager tout un tas de partenariats qui n'ont pas eu de lendemain. Ce qui m'inquiète en ce qui concerne le Brésil, puisque telle était votre question, c'est que l'on voit très bien la formidable tension qu'il y a entre ce réaménagement de la gouvernance mondiale et ces signes inquiétants de faiblesse que donne le Brésil, qui, dans son cas particulier, s'allie à l'effritement sensible de cette gauche latino-américaine qui avait régénéré la gauche dans la période de 90, à travers deux expériences qui étaient d'ailleurs différentes, mais qui s'effondrent toutes les deux en ce moment,
Venezuela.
Qui est le Venezuela de Chavez, qui est en train de disparaître sous les eaux, et ou sous les Maduro, plus exactement, et puis l'expérience luliste au Brésil, qui là aussi s'effondre à travers la personne peu charismatique de Madame Rousseff. Et puis, comme l'effondrement est le même en Argentine, vous avez vu l'alternance qui a eu lieu il y a 2 semaines maintenant, les choses semblent tourner en Amérique latine, mais tourner non pas vers la restauration d'une droite pure et simple, vers l'incertitude. Incertitude au Venezuela, incertitude au Brésil, incertitude en Argentine, incertitude d'un certain point de vue aussi au Pérou. On est dans une situation très délicate dans ce continent injustement marginalisé par les observateurs et les analystes, parce que c'est un continent qui compte.
Un continent qui compte, qui a beaucoup compté en politique internationale durant les années 80. On était encore dans la période de la guerre froide où s'affrontaient soviétiques d'un côté, américains de l'autre, et l'Europe était évidemment très, très concernée par ce qui se passait. Dominique Vidal a un commentaire. Je pense que peut-être avec l'Amérique latine, on va pouvoir faire le lien sur la question des inégalités, mais je vous laisse réagir à ce que vient de dire Bertrand Badie.
Non, moi je suis d'accord avec ce que dit Bertrand. Je crois que ce qui est intéressant dans l'état du monde de cette année, c'est le fait qu'il croise deux formes d'inégalités. C'est-à-dire des inégalités entre le Nord et le Sud, mais aussi des inégalités à l'intérieur des pays du Nord et à l'intérieur des pays du Sud. Alors, on a atteint un niveau d'inégalité, je crois qu'il faut bien le mesurer avec ce chiffre qui, au début, a été contesté, mais ensuite ne l'a plus été. C'est-à-dire que 1% des terriens possède plus de 50% des richesses du monde. Enfin, quand on y pense, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pas étonnant que ça s'accélère quand on voit la statistique qui est parue récemment en France, qui dira peut-être un peu plus à vos auditeurs aussi. C'est le fait que les 500 premières fortunes françaises ont augmenté de 25% en un an. C'est-à-dire, on est vraiment devant une formidable poussée des inégalités, qui fait d'ailleurs que les progrès qui ont été accomplis, parce qu'il y en a eu, notamment dans la décroissance du nombre de pauvres, en 25 ans, on est passé d'1,9 milliard à moins d'1 milliard, mais ces progrès-là ont été complètement effacés par l'accroissement, encore une fois, de la richesse des riches. Alors, à moins de penser qu'il s'agisse d'inégalités naturelles, ce qui quand même confine au racisme, il faut bien considérer que sont en cause à la fois une décolonisation particulièrement ratée, et une gestion à travers la mondialisation depuis la fin du communisme, qui est elle-même une gestion redoutable. Et je crois qu'il faut repenser à ce que disait Eric Hobsbawm dans son court XXe siècle. Il disait que l'Union soviétique avait sauvé le capitalisme par deux fois. Une fois pendant la Seconde Guerre mondiale, en contribuant et comment la victoire des forces anti-nazis, mais une deuxième fois après-guerre, en créant une concurrence telle que les pays capitalistes, notamment en Europe d'ailleurs, étaient contraints de lâcher du lest en direction de leur population travailleuse. Et d'une certaine manière, la disparition de l'URSS, c'est aussi la disparition de cette concurrence et de cette obligation qu'elle créait pour ces pays. Donc on est, je crois, dans une espèce de lien là, historique et actuel, qui permet quand même de comprendre ce qui est développé dans l'état du monde de cette année.
Alors la question des inégalités, Bertrand Badi, évidemment, les promesses des promoteurs de la mondialisation se sont littéralement effondrées. On sait que ce qui a fait s'effondrer l'Empire romain, c'est justement la question des inégalités. Est-ce que cette question, deux minutes pour répondre, Bertrand Badi, menace la cohésion du monde ?
Mais absolument, parce que on croit avoir progressé, Dominique l'a rappelé, en notant que les pauvres sont de moins en moins pauvres, ce qui est vrai. Mais il reste quand même une réalité sociale qui est à la base de la mondialisation, 850 millions d'individus qui ne mangent pas à leur faim, et près d'1,5 milliard qui sont en situation de carence alimentaire. Ces 850 millions de crèvent-la-faim, vous savez, par parenthèse, qui suffirait de mettre mathématiquement le budget d'un an de transfert au football au service de l'alimentation de ces 850 millions de malheureux pour qu'ils ne soient plus frappés de faim, mathématiquement. Bon, dans la réalité, c'est plus compliqué parce que se croisent les variables politiques, sociales, etc. Mais ces 850 millions, où sont-ils ? D'abord, si vous regardez la carte des conflits du monde, vous verrez que tous les conflits aujourd'hui correspondent aux zones de pauvreté dans le monde. C'est vrai du Sahel. C'est vrai des derniers pays classés en termes d'indice de développement humain par le PNUD, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Mali, République centrafricaine, Congo, Somalie, et deux pays d'Asie, Yémen, Afghanistan. Tiens aussi. Ça, c'est un élément qui me paraît très important. Et ce que disait Dominique tout à l'heure sur la pénétration des inégalités au Nord, c'est aussi une façon de reposer la nature des conflits qui nous rongent aujourd'hui, parce que entre la misère au sud et la misère au nord, ceux qui sont frappés par la misère au nord ont un imaginaire qui se mondialise aussi et s'identifie à ces conflits du sud. Et ça nous donne cette vision tentaculaire des formes nouvelles de conflictualité. Oui, je crois que contrairement à autrefois où la guerre était affaire de riches, la guerre est devenue affaire de pauvres et est en train de nous ronger, parce que on peut combattre les riches par le canon, on ne peut pas combattre les pauvres par le canon.
Merci. Ce sera la conclusion de Géopolitique. Merci à nos invités. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, Dominique Vidal, journaliste et historien. Tous deux, Bertrand Badie, Dominique Vidal, co-directeur de l'édition 2016 de l'État du Monde, qui est donc paru sous le titre Un monde d'inégalités au pluriel aux éditions La Découverte. Et je signale aussi la sortie du hors-série d'Alternatives Internationales, Quel monde en 2016, point d'interrogation, analyse et grands enjeux mondiaux. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. À demain.